Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Alors, Antiquissimo, bonjour à tous. Déporte un tout petit peu dans le département voisin pour aller rendre visite à la conservatrice du Musée Bleu, ce beau Musée Bleu que nous adorons tous ici. Et nous allons parler, faire la connaissance de Romy Wisch. Bonjour Romy.
Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation.
Eh bien, c'est un plaisir. Nous ne nous connaissions pas encore et nous allons pas tarder à nous voir beaucoup de fois, si j'ai bien compris, nos prochaines rencontres. Est-ce que j'ai bien prononcé votre prénom, j'en suis sûre, mais votre nom?
Oui, vous inquiétez pas, c'est Wisch, mais...
Voilà. Mais, alors, c'est un patronyme d'origine anglaise?
Oui, tout à fait, d'origine britannique, oui.
D'accord, donc on va essayer de prononcer quand même correctement. Donc, vous êtes en poste avec la direction de ce prestigieux musée depuis septembre 2020. On pourrait dire que ce n'est pas du tout un hasard. D'abord parce que, si j'ai de bonnes informations, vous êtes marseillaise d'origine.
Tout à fait, oui, oui.
Alors, il est vrai que, et puis j'ai lu aussi dans votre cursus qui est impressionnante, que en tant que chercheuse, vous avez fait beaucoup de recherches dans ce même musée, virtuellement, en consultant les ouvrages, mais aussi dans votre enfance, en étant au contact de ces objets. Donc, c'est un musée qui vous parle depuis très longtemps, depuis l'aspect livresque jusqu'à l'aspect le plus concret, avec ces objets que vous aimez. Mais entre-temps, et nous parlerons dans un instant de votre passion qui a légitimé tout ça. Entre-temps, vous avez pas mal bourlingué. Une thèse en Angleterre, si je crois bien mes petits renseignements.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, vous avez étudié dans la prestigieuse université d'Oxford et où vous avez même enseigné.
Oui, tout. Alors c'est vrai que j'ai fait toutes mes études et j'ai effectivement, après ma thèse, j'ai enseigné là-bas pendant un petit moment. Oui.
Alors on reparlera du début, mais des études d'archéologie, l'Antiquité, la période romaine, la Syrie aussi. Est-ce que vous êtes allée par là-bas?
Oui, alors en fait, c'est vrai que finalement, vous savez, comme un petit peu tout le monde... Quand on fait de l'archéologie, c'est aussi, on aime se projeter et imaginer de travailler sur plein de choses différentes. Et en général, malheureusement, on ne se soucie pas trop de son propre patrimoine archéologique. Et donc, bien sûr, quand il était question de faire ma thèse, j'ai voulu travailler le plus loin possible, et donc sur la Syrie, à cette époque-là. Et puis, en fait, ma thèse est tombée juste au même moment que le printemps arabe. Donc, tous mes plans étaient un petit peu chamboulés. Et c'est vraiment parfois le hasard qui guide certains choix, parce que je me souviens très bien, mon directeur de thèse à cette époque m'avait dit, mais vu que ça devenait un petit peu compliqué, il m'avait dit, mais enfin, Romy, tu ne viens pas du sud de la France, quand même, et tu étudies les sarcophages, une des plus belles collections, elle est quand même d'où tu viens. Et finalement, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Mais moi, ça ne m'était pas apparu comme une évidence à l'époque, parce que, en fait, je pense qu'on a tous un petit peu, on a tous eu mal à voir ce qu'on a juste à nos pieds.
Bien sûr. Et puis, il fallait peut-être tous ces parcours pour pouvoir revenir en effet à votre sujet de prédilection. Mais là, donc, vous avez fait un long séjour à New York, vous êtes allé en Suède. Donc, vous avez collaboré à beaucoup de choses et eu beaucoup de connaissances dans tous ces continents.
Tout à fait, oui. Alors, c'est vrai que moi, je suis un petit peu différente, on va dire, dans le contexte des musées en France, parce que j'ai un parcours qui est vraiment plus académique et universitaire, et moins celui qu'on retrouve, on va dire, dans le milieu de la conservation. Donc, effectivement, j'ai fait une thèse, et après, j'ai pris pas mal de postes de post-doctorat, et après, je suis devenue prof de fac. Donc, c'est vrai que dans ces parcours-là, on a souvent tendance à voyager énormément. Et voilà, donc c'est à travers ça. Et c'était très intéressant parce que Les postes que j'ai eu la chance de pouvoir obtenir, en général, c'était des postes qui étaient en lien avec des musées. Donc, du coup, j'ai toujours eu finalement ce lien université-musée et recherche-musée qui, pour le musée de l'Art antique, en tout cas, est particulièrement intéressant.
Alors, ce qui fait qu'effectivement, vous avez toujours fait le pont entre l'aspect livresque, les bibliothèques, les universités et les objets. Et aussi, vous avez en tant que professeur ce souci de la didactique. Et je crois que ça vous est particulièrement à cœur aussi au Musée Bleu.
Oui, complètement. Alors, c'est vrai que pour être complètement honnête avec vous, en prenant ce poste, de base, c'était particulièrement intéressant pour moi parce que j'ai fait toute ma thèse et mes recherches sur les sarcophages, du musée de l'art antique. Donc, c'était vraiment l'aspect recherche, étant donné que le musée de l'art antique, il a la particularité d'être un musée, bien sûr, mais d'avoir tout un centre de recherche avec un service archéologique qui comprend 4 archéologues et dont un service subaquatique, le seul en France rattaché à un musée, mais aussi un atelier de restauration. Donc, on a toute la chaîne opératoire liée à la recherche archéologique et c'est quelque chose qui, je trouve, est particulièrement intéressant. Mais en fait, finalement, depuis que je suis dans mon poste, effectivement, c'est l'aspect transmission que je trouve peut-être finalement le plus intéressant. Justement, comment on arrive à rendre cette recherche, qui parfois en plus, la vraie recherche archéologique, c'est pas tout à fait ce qu'on imagine dans
Non,
l'imaginaire,
c'est pas
enfin, c'est pas
Indiana
tout à fait ce
Jones.
qu'on voit dans l'imaginaire populaire. Voilà, non, pas du tout. Et justement, en fait, arriver à rendre toute cette démarche-là intéressante et pour le public, c'est quelque chose qui est vraiment qui nous tient à cœur. D'autant que une des particularités du Musée Bleu, c'est que grâce à ces services-là, en fait, on peut vraiment suivre l'objet de la fouille au musée. Donc, on accompagne les visiteurs vraiment dès la fouille. Dans l'atelier de restauration et finalement dans la présentation des collections. Et c'est quelque chose d'unique parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand les visiteurs reviennent au musée, justement, ils reviennent, il y a un attachement particulier avec les objets, justement, parce qu'eux, ils ont pu participer à ces découvertes, à ces expériences, à cette aventure finalement. Et les objets, ils arrivent à se les approprier. Ce qui est quelque chose normalement d'assez difficile pour un musée, c'est de vraiment faire en sorte que le public, surtout le public de proximité, s'approprie les objets. Bah, grâce à cette démarche-là, c'est vrai que nous, on a quand même notre public qui est très fidèle.
Alors, c'est d'autant plus touchant ce que j'entends là que j'ai moi-même vécu ça en tant que visiteur, puisque lorsque la barque, la célèbre barque, le bateau qui a été sorti du Rhône morceau après morceau est sorti, j'ai eu la chance de pouvoir, depuis une barque qu'on avait mise à disposition d'associations, voir comment on, petit à petit, remontait ce bateau, ensuite comment il a été envoyé dans un laboratoire très très spécifique et très savant pour être constitué. Et j'avoue que chaque fois que je vais dans le musée et que je passe beaucoup de temps auprès dans cette salle-là qui a été rajoutée après, comme on le sait, ben je suis particulièrement émue parce que justement, oui, j'ai suivi toutes ces étapes-là et je pense que vous avez tout à fait raison de penser que les visiteurs ont besoin de voir tout ce cheminement.
Oui, tout à fait. En fait, il y a une partie émotive. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, de base, est un peu complexe à imaginer parce qu'on est vraiment dans l'aspect finalement très scientifique, très, très froid. Et cette émotion-là qu'on peut apporter en finalement en présentant les objets à toutes les phases, en se faisant accompagner en fait du public, parce que c'est vraiment ça, c'est pas juste eux qui nous accompagnent, c'est nous qui les accompagnons. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est très collaboratif comme approche et c'est très touchant.
Alors là, avant de passer à ce qui vous attend dans la campagne suivante, puisqu'on a déjà vu des belles affiches sur le musée qui va fêter ses 30 ans, est-ce que vous diriez que dès l'école, dès toute petite, vous aviez, alors peut-être pas la passion pour les sarcophages, mais ce goût, bah, peut-être pour le latin déjà, pour les langues anciennes et pour l'histoire de l'Antiquité?
Alors, oui, et les musées, enfin, les musées sont vraiment, en tout cas dans mon expérience, ont vraiment un rôle clé là-dedans, parce que moi, très sincèrement, j'ai découvert l'Antiquité lors d'un voyage scolaire à la Vieille Charité. Je ne sais pas si vous connaissez, et j'en doute pas. Mais et je me souviens très bien, c'était très touchant parce qu'on était en classe devant un vase grec trouvé à Marseille. Et donc moi, mes parents ne sont pas d'origine française, et c'était vraiment très intéressant parce qu'on était tous là à regarder ce vase, et la médiatrice nous expliquait, vous voyez, Marseille, c'est vraiment une ville qui a toujours été diverse, et on voit bien que les échanges culturels, ils étaient là depuis le début. Et donc finalement, c'était intéressant parce qu'on s'est tous sentis, comment dire, on a tous eu le sentiment qu'on faisait partie de la même grande histoire, et on a tous vécu un très grand moment, je me souviens, dans ma classe, devant ce malheureux fragment. Et c'est là où je me suis rendu compte effectivement que finalement, ces objets-là, ils avaient un pouvoir énorme. Ils avaient un pouvoir non seulement de raconter une histoire, mais de raconter notre histoire même aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez particulier et qui est important.
Ben oui, et on a tous dans le musée, peut-être que vous allez nous dire quel est l'objet de ce musée avec qui vous avez un coup de cœur. Mais on a tous dans les musées qu'on fréquente des êtres chers qui sont presque devenus des amis et à qui on va rendre visite. Est-ce qu'il y a un objet particulier dans ce musée qui joue ce rôle ?
Oui, alors plusieurs, vous imaginez bien, et c'est vrai que forcément, j'ai un petit faible pour les sarcophages, je ne vous le cache pas. je dirais que le sarcophage que je trouve, qui est probablement mon sarcophage, on va dire préféré, même si le terme est mauvais, c'est le sarcophage de Phèdre et Hippolyte, qui est un superbe sarcophage, qui représente donc le mythe de Phèdre et Hippolyte. Et ce que je trouve particulièrement intéressant sur ce sarcophage, c'est pas seulement sa plastique qui est absolument surprenante, mais c'est son histoire qui est assez atypique et typique à la fois. C'est-à-dire que ces objets faisaient partie des objets les plus réemployés et réutilisés du monde romain. Les sarcophages, par définition, ce sont des blocs de marbre qui sont assez malléables et réemployables. Et ce sarcophage-là, donc, qui date du IIIe siècle, il a été réemployé sûrement 2 siècles plus tard. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que le nouvel occupant se l'est complètement repensé. C'est-à-dire que sur le couvercle, vous auriez vu un couple qui aurait été représenté. Et en fait, il a enlevé le monsieur qui était à l'arrière, et il a transformé la dame en monsieur, et donc à son effigie, à lui. Oui. Et donc vraiment, c'est intéressant parce qu'on voit... On voit finalement, juste dans ce sarcophage-là, le réemploi et la façon dont les objets, même si nous on les fige dans un musée par définition à un instant T, mais en fait, ce sont des objets qui ont continué à vivre bien au-delà.
Alors,
voilà.
Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
Et donc, c'est votre objet de prédilection ?
Oui. Je dirais que celui-là, oui, en particulier. Oui.
Et alors, on le trouve dans la salle des sarcophages, puisque je ne doute pas que nos auditeurs vont à nouveau retourner dans ce musée et le chercher.
Ah ben, j'espère bien, tout à fait. Il est dans l'allée des sarcophages. C'est un des premiers sarcophages sur le chemin. Donc oui, non, il est là, bien en vue.
Alors, parlons maintenant de ce qui nous attend dans ce musée. Qu'est-ce que vous auriez envie de signaler, à part l'événement dont nous allons parler, qui est tout proche, puisque c'est cette fin de semaine? Est-ce que dans ce qui nous attend pour 2025, vous auriez envie d'attirer l'attention sur quelque chose de particulier?
Alors, l'année 2025, pour nous, elle va être, on ne va pas se cacher, un petit peu particulière. Pour plusieurs raisons, mais la toute première étant que nous serons en travaux. Donc, dès le printemps 2025, il y aura des gros travaux d'étanchéité au musée de l'Art antique. Donc, on repense le musée autrement pour cette année-là. C'est-à-dire que certaines sections devront être un petit peu fermées, des objets devront être déplacés. Mais finalement, cette contrainte pour nous, elle était assez intéressante parce que on s'est dit qu'on allait travailler sur le bâtiment, ce qu'on a rarement fait. En fait, c'est un bâtiment qui est en lui-même assez intéressant. Il a été conçu par l'architecte Henri Siriani. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de vraiment avec la rénovation de ce bâtiment, de vraiment réfléchir au bâtiment lui-même. Et donc, on fait un travail avec la Cité de l'architecture à Paris sur l'histoire de ce bâtiment-là. Et ça tombe plutôt bien parce que le 2025, ce sera également les 30 ans du Musée de l'Atlantique. Et donc, on invite également tous ceux et celles qui ont des souvenirs, des photos, des mémoires, à nous les partager pour ces 30 ans-là, justement, pour qu'on puisse tous ensemble raconter notre histoire.
Alors, si par hasard, des auditeurs ont envie de partager une photo particulière, ils l'envoient au musée.
Tout à fait, oui. On a, sur le site internet, on a une page dédiée à toute cette collecte.
Très bien. Eh bien, nous allons marquer une petite pause musicale, comme à chaque fois, et on se retrouve dans une petite minute ou deux pour évoquer l'événement qui nous attend tout prochainement. À tout de suite.
Του ασκατούλο νησίν τηλεπιτάτ που είναι ελεγάντες βουέλες δίκαιρε νέκτα και ρεπόσες φλάουι τελικιάς του ασκατούλο νησίν τηλεπιτάτ που είναι ελεγάντες βουέλες δίκαιρε νέκτα και ρεπόσες. Βαλέτνι ήλτα κέρε κούρνον τα λατερέ κουτού τα πάντα σνήτου κουίτ φακιά συνεπτιάρου βάρε κουίτ κουίτ αβές πονή μαλίκουε δείκνο βίσβολο τέακος αμόρες ακαελούν λεπιτό βοκάρε βέρσου βάρε κουίτ κουίτ αβές πονή μαλίκουε δείκνο βίσβολο τέακος αμόρες ακαελούν λεπιτό βοκάρε βέρσου.
C'est la deuxième partie de l'émission Antiquissimo, consacrée à Romy Wish Weish d'une part et au Musée Bleu d'autre part. Et enfin, à cette aventure particulière, la quatrième je crois, qu'on appelle les rencontres autour de la sculpture. N'est-ce pas ?
Tout à fait, oui. Vous avez tout à fait raison, c'est la quatrième. Alors, c'est le fruit d'une longue collaboration entre le musée et le Centre Camille Julian. Et l'idée, c'était vraiment de parler de la sculpture romaine, mais de façon très large. C'est-à-dire que l'idée, c'était de créer un rendez-vous régulier pour toutes les personnes qui travaillent sur différents aspects. Donc, on peut très bien avoir des... Vous verrez dans les intervenants, il y a de nombreux musées, il y a de nombreux chercheurs, il y a aussi des personnes qui travaillent dans le domaine de l'archéologie préventive et des étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de rassembler toutes les personnes qui œuvrent sur ce sujet.
Alors les quatrièmes rencontres, et c'est aussi votre quatrième année, donc est-ce que c'est vous qui les avez initiées ces rencontres ?
Alors non, elles ont été initiées bien avant mon arrivée. Donc, ça fait un petit moment, mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'y participais à chaque fois en tant que chercheuse, oui. Donc là, je serai moi-même de l'autre côté.
Alors, qu'est-ce qu'elles ont cette année de particulier ? Quelle en est la thématique ? On va peut-être aussi évoquer quelques conférences, interventions particulières. Mais quelle est la thématique générale et comment vont-elles s'organiser ? Je crois que les deux journées vont être très remplies.
Oui, les deux journées vont être très remplies. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on propose une thématique et en même temps, on a aussi une ouverture pour tous les nouveaux sujets qui viendraient en archéologie ou en histoire de l'art. Donc, le thème cette année, c'est dans son plus bel appareil, cadre et ornement de la sculpture à l'époque impériale. Et vraiment, l'idée, c'était de parler du contexte dans lequel en fait étaient présentées les sculptures. Alors c'est pas un sujet facile puisque bien souvent on n'a plus trop de contexte archéologique dans de nombreux cas et malheureusement on n'a pas toujours des textes qui nous permettent de savoir des sources écrites qui nous permettent de savoir comment ces objets-là étaient présentés. Mais justement pour nous c'est un sujet très important et intéressant parce que c'est souvent une donnée qui manque. Et qui est souvent vu comme un problème, et là on a choisi de finalement regarder ce problème comme un sujet.
Oui, parce
Et bien
que
sûr, on a une. Oui, excusez-moi.
oui, il y a aussi l'aspect, je ne peux pas dire imagination, mais reconstruction de l'œuvre ou de son contexte que vous allez évoquer dans certaines communications.
Tout à fait, oui. Donc il y a le contexte d'origine, il y a le contexte dans lequel on présente l'objet.
Alors, par
Aussi,
exemple,
d'ailleurs.
j'ai noté dans votre programme, encore une fois, il est extrêmement dense, riche. J'ai oublié de poser une question. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde,
C'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Oui, non, au contraire. C'est tous bienvenus.
Donc, voilà, vous savez que pendant 2 journées entières, vendredi et samedi, vous aurez vraiment tout un tas de sujets passionnants. Alors, moi, j'ai vu justement, puisque je suis allée il n'y a même pas une semaine, une proposition de restitution de la décoration du temple de Livy à Vienne.
Oui.
Alors je trouve qu'effectivement c'est quelque chose de passionnant parce que ce temple qui est très beau, presque aussi beau que le nôtre à Nîmes, mais pas tout à fait, il faut quand même que je sois un peu chauvine, eh bien il est un petit peu austère tel qu'il est présenté et on aurait envie d'avoir l'autour, si j'ose dire.
Ben en fait, c'est vraiment une des grandes questions pour nous. Alors là, on rejoint un petit peu le domaine des musées, c'est comment présenter le patrimoine, sachant que, et les choses évoluent un petit peu de ce point de vue-là, sachant que finalement, quand on présente un objet, on le décontextualise. Et donc là, maintenant, on travaille beaucoup sur la recontextualisation et sur le contexte général. Alors, forcément, se pose des questions, enfin à plusieurs titres, mais ce qu'on veut dire en fait avec ces objets-là, quel est le message qu'on essaye de faire passer, et forcément, ça informe énormément le contexte de présentation.
Oui, je trouve que c'est la contextualisation pour tout. Hein. C'est ce qu'on oublie dans nos époques modernes. On voudrait toujours voir les choses comme elles sont et non pas les remettre dans leur contexte. Donc ça, je pense que... Alors ça, c'est à 9h30 le vendredi, oui, c'est ça. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut venir à une conférence et pas une autre ou bien est-ce qu'on doit d'un coup suivre tout?
Non, on peut tout à fait venir à ce qui nous intéresse. C'est ouvert et non, il n'y a vraiment aucune obligation. Parce que ce sont des longues journées, on ne va pas se cacher.
Oui, parce que je vois que
C'est dense.
même le temps du midi, hein, il y a des discussions, il y a vraiment... je pense que ça va être une journée où on va apprendre beaucoup de choses, mais on pourra échanger aussi.
C'est vraiment l'objectif, c'est de créer cet espace de dialogue ouvert pour qu'on puisse justement, déjà pour que tout le monde puisse, peu importe effectivement si on vient du milieu de la recherche ou non, pouvoir échanger sur tous ces sujets, sur toute cette recherche qui est en cours. Et c'est ça qui est très intéressant dans ces journées-là, c'est que l'idée, c'est vraiment de parler de ce qui est en cours.
Et alors, ce qui est aussi passionnant, c'est de voir que géographiquement, c'est aussi très varié, hein, puisque bon, vous allez parler, les sujets sont vastes, les temples, théâtre, édifices publics, le contexte privé, l'espace urbain. Enfin bon, je ne vais pas tout détailler, mais c'est vraiment très varié, mais aussi géographiquement, puisque on va se promener entre guillemets, ben, on l'a dit à Vienne, par exemple, pas si loin de chez nous, en Arcadie. L'architecture de Douga à l'époque romaine, Qu'est-ce que j'oublie? Oui, le samedi matin à 9h, donc au tout début, il va y avoir une communication en espagnol, si j'ai bien compris, concernant Catalunya.
Oui, tout à fait. Non, ça, c'est quelque chose que sur lequel on travaille et qui porte fruit. On est vraiment en train d'ouvrir de plus en plus ces rencontres à l'international. Donc, non seulement, on va dire, pour avoir effectivement des chercheurs qui viennent d'un petit peu partout, mais pour que les sujets en eux-mêmes, les zones géographiques des sculptures en question, soient le plus vaste possible.
Et en plus, ça donne, je trouve, et pour moi, c'est toujours une idée forte, l'idée que tout ça, c'est le même monde, quoi. Hein. On a tendance à penser que quand on dit Rome, c'est que Rome. En fait, c'est une diversité géographique extraordinaire. Vous allez parler de Pouzol aussi, du Togatus de Pouzol. Donc là, on est reparti
tout
en Italie.
L'idée, c'est vraiment de montrer la diversité et de rappeler que, c'est ce qui est intéressant et on l'entend souvent, mais de rappeler ce qui est propre à l'art romain. Et ça, c'est quelque chose on dit souvent gréco-romain, mais là, on est vraiment sur du romain. Alors, bien sûr, des influences grecques, et ça fait justement partie de cette identité-là. Mais c'est montrer justement, effectivement, cette sculpture romaine dans toute sa diversité, dans toutes ses formes, et qui en même temps a un langage commun, mais en même temps très, très diversifié.
Et à son originalité. Et alors, la fin du colloque est consacrée plutôt à la Gaule, et on aura le plaisir d'entendre Cécile Carrier, qui nous est très chère, puisque nous l'entendons très souvent dans Antiquissimo, nous parler de la sculpture dans le musée de la Romanité. Et là, elle parlera des squelettes banqueteurs à Nîmes.
Oui, tout à fait.
Donc, on attend.
Alors, j'ai pas encore vu son intervention pour tout vous dire, donc j'attends justement de l'entendre, mais oui.
Voilà.
Donc, oui, alors, et souvent, d'ailleurs, elle intervient souvent dans le cadre de ses rencontres pour nous présenter des objets du Musée de la Romanité.
Donc, on va se régaler. Il y a Richard Pellé. Enfin, je n'ai pas cité, évidemment, tout le monde. Ce n'est pas le but de l'émission. Mais c'est de donner envie. Arles, c'est tout près de Nîmes, d'aller faire un petit tour et pourquoi pas un grand tour. Donc, pour ce vendredi et ce samedi, qui sont dédiés à la sculpture romaine. Et je rappelle qu'il s'agit des quatrièmes rencontres autour de la sculpture romaine au Musée Bleu, le beau Musée Bleu d'Arles. Merci beaucoup et au plaisir de vous entendre. N'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des choses à nous faire partager. Au revoir.
Au revoir, merci.